sont repassés en Zoom. Ils ont finalement, ça sera en Zoom. Shalom ouvracha à tout le monde. Et voilà, nous retrouvons après Pessah, après notre trêve pascale, pour revenir. Et notre sortie d'Égypte, tout ce que tu veux. Ah ben tu vois, c'est pas la peine de à 7h.
Ah ben alors elle dormit.
Ben il a expédié. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bekitsour, on revient dans notre étude donc de Parashat Hashavua et cette semaine Parashat Shemini. Alors putain, ça y est, Parashat Shemini. Et là c'est un gros morceau, autant vous le dire tout de suite. Pourquoi c'est un gros morceau? Eh bien parce que la Parasha, on peut vraiment clairement établir deux parties de la Parasha. La Parasha se coupe en deux. Les cinq premières montées et les deux dernières. Elles sont plus ou moins équivalentes en termes de grandeur. Les cinq premières montées sont des petites montées, les deux dernières sont des plus grandes. Mais ça parle de deux sujets qui, a priori, sont vraiment rien à voir. Mais rien à voir. Alors que la première partie fait état de l'inauguration du Mishkan et du drame qui va avec, et on va y venir. La deuxième partie, les lois de la kashrout, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange pas. Ok. Alors venez, on essaie de rentrer dans le vif du sujet et essayer de comprendre de quoi il s'agit. Vayehi bayom hashemini. C'est comme ça que s'ouvre notre paracha. Kara Moshe le Aaron le Vanav le Zikne Israël. On est donc le huitième jour. Est-ce qu'il s'agit ici du film avec Daniel Auteuil? Je ne crois pas. Hein, je ne suis pas sûr. Mais c'est quoi ce Yom HaShemini? Alors, d'aucuns diront, bah oui, bah c'est le Yom HaShemini, parce que ça fait 8 jours qu'on fait les festivités d'inauguration et que les chefs de tribu ont amené leur tribu, ont amené leur cadeau, leur korban à Milouim, et nous sommes le 8e jour de ces korbanot. Mais ce serait beaucoup trop facile. Vayehi Bayom HaShemini nous projette dans un autre univers complètement. Eh oui, car nous dira Rashi, pas ici, parce que ici c'est pas clairement dit. Rashi nous dit tout de suite, ne t'inquiète pas, ça fait partie, ce Yom HaShemini, c'est l'inauguration du Mishkan. Ne t'y trompe pas, c'est pas Stam, un jour où on fait des sacrifices, c'est l'inauguration du Mishkan. Ici, c'est donc pas clairement établi par la Torah, mais ça sera clairement dit, par exemple, dans le livre de Bamidbar, lorsque là-bas, dans la paracha de Nassau, on fera état de ce même Yom HaShemini en tant que Yom dans lequel Moshe, et ça c'est clairement dit là-bas, a mis en place le Mishkan. Donc nous sommes dans le jour d'inauguration du Mishkan, mais Rashi nous explique que ce soit ici ou là-bas, dans Bamidbar, c'est une sonnerie que tu ne peux pas rater, ça. C'est le corps.
Non,
je fais. Et oui. Et donc, là-bas, c'est clairement établi que le Yom HaShemini n'est pas simplement le 8e jour des sacrifices, mais c'est carrément le 8e jour de la création. Je dis, de la même façon que le Yom HaRishon ou Nachshon ben Aminadav, chef de la tribu de Yehuda, a amené son korban, est à mettre en parallèle avec le premier jour de la création, eh bien, le Vayehi Bayom HaShemini est à mettre en relation avec le 8e jour de la création. Seulement là, tout de suite, nous avons un problème. Parce que, ben non, il n'y en a pas 8 jours de la création. Il n'y en a que 7. Rappelons-nous, Dieu crée le monde en 6 jours. Le 7e jour, a-t-il commencé? Ben oui. Il y a un verset qui dit « Vayekulu ha-shamayim va-aretz v'chol zevam, vayekhal Elohim bayom ha-shevi'im melarto asher asa, וישבוד ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי וקדשותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Il y en a qui le disent avec un air qui ressemble plus à ויחלו השמיים והארץ וכל צבאם. Ça c'est chez toi. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. Ça, ça marche. Il y en a qui disent ויחלו. Ça c'est chez les autres, c'est-à-dire à la grande synagogue, c'est-à-dire chacun il a son truc, mais il s'agit ici d'un verset qui n'est pas seulement le Kiddush, qui est le verset d'ouverture du 7e jour. Ok, ויחלו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. Donc Le sixième jour est terminé puisqu'on a dit la phrase de conclusion des jours de la création qui est Vayi Erev, Vayi Voker, Yom X. Donc des fois Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Hashishi. Et donc nous sommes rentrés dans le septième jour. Seulement, eh bien, le Kiddush se termine en disant Kivo Shavat Mikol Melarto, Asher Bar Elohim, La Sot. Et on ne dit pas. Non. C'est ta raison qu'on ne dit pas Malazot, c'est Nahon, mais on ne dit pas surtout Vayere Vayvoker Yom Hashevi. Ce verset n'existe pas dans la Torah. Cela veut dire que le septième jour de la création n'est pas terminé. Ça fait maintenant 5781 ans qu'on est dans le septième jour de la création. Et c'est le jour dans lequel Dieu a arrêté de bosser.
Moi, je pense que le septième jour, c'est Shabbat.
C'est exactement ça, tu as tout à fait raison. Mais c'est le Shabbat de qui ? De lui. C'est-à-dire qui vaut Shabbat, misé beau, c'est dans le septième jour. Mais c'est qui Shabbat ? C'est Dieu. Qui s'est arrêté de bosser ? Dieu. Effectivement, tu as raison. Le septième jour de la création, c'est le Shabbat de Dieu. Mais c'est pour nous le moment où on bosse. En d'autres termes, lorsque Dieu s'arrête le septième jour, je vais vous dire, mon père il m'a posé une question un jour qui est très vraie, qui est très vraie. Il m'a dit, bon, vous n'êtes pas un petit peu hypocrite, vous les religieux ? Je lui ai dit, bah, possible, mais ça dépend sur quoi ? Sois plus précis. Il dit, bah, ok, tu as mis ta minuterie de Shabbat. Et donc, tout s'allume à 7 heures, tout s'allume, truc. Bon, bah, c'est comme si tu appuyais sur le bouton. C'est la même chose. Et je lui ai dit...
C'est là, tu le fais avant.
Oui. Il m'a dit, bah, d'accord, mais si c'est prévu pour que ça s'allume maintenant, autant appuyer. J'ai dit, mais c'est ça tout le truc. Tout le truc, c'est qu'il y a quelque chose qu'on oublie assez souvent au niveau de Shabbat. Il y a deux mitzvot très importantes pendant Shabbat qui sont liées à Shabbat. Il y a la première qui est de ne pas faire de melachot pendant Shabbat. Mais on a une autre qui n'est pas moins importante, qui dit « Sheshet yamim ta'avod v'asita kol melartecha ». C'est tout autant une mitzvah de bosser pendant les six jours de la semaine que de ne pas bosser pendant Shabbat. En d'autres termes, oui, bien sûr que je prépare ma minuterie de Shabbat avant Shabbat. C'est tout le rôle des six jours de la création de mettre en place une structure qui va pouvoir marcher toute seule pendant Shabbat. En d'autres termes, Dieu, pendant six jours, il a mis en place la structure et juste avant l'entrée de Shabbat, il a branché sa minuterie de Shabbat qui s'appelle la nature. La nature, c'est la minuterie de Shabbat de Dieu. Et bah, vous savez, des fois, la minuterie, elle s'est bloquée, ou alors je l'ai mal réglée, ou alors j'ai oublié d'éteindre la lumière dans le frigo, ou bien tout d'un coup, il y a les plombs qui ont sauté. À ce moment-là, eh bien, on va chercher notre ami non-juif et qui s'est fait le boulot de ce qu'on appelle le Shabbos Goy, le Goy de Shabbat.
Dans certaines communautés de la Grèce, on l'appelle le Shabbos Boy.
Shabbos Boy. Ah bon, pas avec ça, il y a fait. Le Shabbos Boy.
Il s'est converti au
judaïsme. Tu vois. Ah, c'est terrible. Maintenant, il y a des quartiers à Jérusalem où c'est un métier. C'est un métier, Shabbos Boy. De quoi ? Par qui ? Enfin, pour qui ? Je veux dire. Non, pour qui ? Pour les juifs ou pour les non-juifs ? Là, en l'occurrence, les arabes en Israël. Le juif, il n'a pas le droit d'être Shabbos Boy.
Non, mais de demander.
Ah, t'as pas le droit de demander. T'as pas le droit de demander. Il faut faire par allusion. Mais dans les quartiers où je fais. Mais évidemment. Mais totalement. C'est-à-dire que le Shabbos Goy, quand tu regardes dans le Shulchan Aruch, il n'est pas pour. Il n'est pas pour. Il dit c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Et le seul moyen de faire ça, c'est que lui, il en ait aussi un intérêt. Et tout ça, machin. Moi, je me souviens, si on rentre dans le personnel. J'ai été, il y a quelques années, on a été à Prague avec ma femme du jeudi au lundi. On était, tu sais, à l'hôtel Kacher, là-bas, il y a le King David. Et donc, on était là-bas, machin, et on ne savait pas quoi faire pendant Shabbat. Parce qu'on avait pris Shira avec nous, elle était bébé, elle était dans la poussette, et il n'y a pas de hérouve là-bas. On dit quoi, on va être bloqué dans l'hôtel tout Shabbat. C'est dommage, on est venu 4 jours justement pour voir un petit peu. Et quand j'appelle l'hôtel pour réserver, ils me disent... est-ce que vous voulez le service Shmartaf ?
C'est quoi ça ?
Shmartaf, c'est chômer à la taf. Taf, c'est un bébé. Ils avaient un service. Alors, je dis, c'est quoi le service Shmartaf ? Il dit, bah, il y a plusieurs versions. Tu as la version A, ou la version B. Je dis quoi, la version A ? Eh bien, la version A, c'est que tu commandes une babysitter qui vient et qui reste dans le lobby de l'hôtel avec ton enfant pendant tout le temps où tu sors. Ou alors la version B, c'est un peu plus cher. Elle prend la poussette, elle vient avec toi, elle te suit. Hein ?
Oh, il y a beaucoup de choses.
Ça. Alors j'ai demandé le numéro du Rav de Prague. J'ai appelé le rabbin de Prague, qui est un ancien élève de Yeshiva de Merkaz Harav. Et je lui ai dit, alors dis-moi, c'est sûr qu'en Israël, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais en Chutz Laaretz, partout, tout le monde utilise, partout en Chutz Laaretz, les gens utilisent le goy de Shabbat. Donc tu fais ce comme tu veux, tu te débrouilles. Maintenant, en l'occurrence, nous c'était plus facile, elle est restée à l'hôtel, machin. Je lui ai mis plein de chocolat dans le berceau. Je lui ai dit, c'est pour vous, n'hésitez pas, pour qu'elle profite aussi de son moment. Ça veut dire, ok, maintenant, c'est sûr que c'est aller lui dire il faudrait que truc, non. Mais dans les quartiers où je fais allusion à Jérusalem, tu dis rien, le mec il sait. Le mec il sait déjà. Mais, exactement, le mec il est briefé, il connaît toutes les familles du quartier et tous les juifs savent où il habite. Enfin, il n'habite pas là, mais tous les vendredis soirs il a un bout de quai et il reste de l'entrée de Shabbat jusqu'à minuit, 1h du matin. Et il raconte, il y a eu un reportage là-dessus sur la télé israélienne, il raconte que tous les Shabbats, il a au moins une vingtaine de personnes qui viennent le voir, et celui-là, il a oublié d'enlever la lumière, et celui-là, il a trouvé, et celui-là, il a machin. Il ne pose même pas de questions, ils disent rien, les mecs. Ils arrivent devant le bout de quai, il arrive, et il fait des trucs, et il revient s'asseoir. Bekitsour, nous sommes, nous, l'être humain, pas que les juifs, l'être humain, nous sommes le Shabbos Goy de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il s'est arrêté de bosser. Il a mis le monde sur minuterie, mais pour faire les petits à côté, c'est l'homme qui doit maintenant bosser dans ce monde. D'accord ? À quoi ça sert ? Eh bien, le but de l'homme, c'est de terminer le projet du septième jour. Et quel est le projet du septième jour ? Eh bien, tel qu'on le dit dans le Kiddush, dans ses articles, « Vayevarech Elohim et Yom HaShevi'i, Vayekadesh Oto ». Le but du septième jour est d'arriver à la Kedusha. C'est arriver à faire atteindre le monde entier le degré de Kedusha, c'est-à-dire de rencontre avec Dieu. Ça, c'est le projet. Et semble-t-il que ça prend un maximum de 6000 ans pour y arriver. On est en 5781, c'est plus encore très long, on peut d'ailleurs arriver avant. Dans tous les cas, très bien. Mais à ce moment-là, si on n'a pas terminé le septième jour, de quel droit va Yehi Bayom HaShemini ? Parce que là on parle de l'inauguration du Mishkan, mais en fait c'est pas que le Mishkan et Beit HaMikdash sont sont le huitième jour à l'intérieur du septième. Le Beit HaMikdash, c'est un endroit de Kedusha. Comment ça s'appelle dans le livre de Shemot? Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocha, nous dit Rashi, Beit Shel Kedusha. En d'autres termes, le Beit HaMikdash ou le Mishkan, c'est un endroit de Kedusha, c'est l'endroit de la rencontre avec Dieu. En d'autres termes, c'est le huitième jour. Les lois dans le Beit HaMikdash ne sont pas les mêmes, au niveau de la halakha, du judaïsme, ne sont pas les mêmes qu'à l'extérieur du Beit HaMikdash. Le Shabbat que nous on fait ici à Jérusalem n'est pas du tout le même qu'on fait au Beit HaMikdash. Au Beit HaMikdash, on fait la shrita, on n'a pas le droit de porter du lin et de la laine, les kohanim sont habillés en lin et laine. Mais kitsour, les lois ne sont pas les mêmes. Parce que le monde du Beit HaMikdash, du Mishkan, ce n'est pas le même monde, c'est le huitième jour. Sauf qu'il y a un grand problème. Ben oui, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un chope un virus ?
L'incubation.
C'est d'actualité. Il chope un virus. À ce moment-là, comme il est en bonne santé et que le virus n'est pas extrêmement dangereux, l'homme va réussir à combattre le virus. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va produire des anticorps, il va produire des choses. Et en fait, son corps va reconnaître le virus comme étant un agent étranger. Il va se défendre et va détruire cet agent étranger. Eh bien, vous comprenez pourquoi le Beit HaMikdash a été détruit. Si le Beit HaMikdash, c'est un élément du huitième jour, tant qu'il est dans le septième, ça ne matche pas. Tant que le monde est dans le septième jour, le Beit HaMikdash n'est pas à sa place, le monde ne le permet pas, entre guillemets, et donc il est détruit de temps en temps.
Il est détruit, là.
De temps en temps. Le Mishkan, le premier Betamigdash, le deuxième Betamigdash. Donc, en fait, quand on parle de vouloir reconstruire le troisième Betamigdash pour qu'il ne soit pas détruit, c'est en fait faire atteindre le monde entier à cette dimension de huitième jour pour que ce ne soit plus un agent étranger. Donc, tout ça, c'est Vayehi Bayom HaShemini. Et là, on est dans l'inauguration du Mishkan. Tout est censé être au top. Les korbanot ont été mis en place. Tout est fait. Ça y est, on a fait la shrita. Tout ce qu'il fallait faire la shrita, on n'attend qu'une seule chose. C'est que le feu descende du ciel. Et il ne descend pas. Il ne descend pas, on nous dit... où est-ce que c'est marqué ici? Voilà. On nous dit que Aaron et Moshe vont finalement devoir rentrer à l'intérieur de la tente d'assignation de ce que nous on va appeler le Kodesh HaKodashim. Va yavo Moshe et Aaron et l'Oel Moed. Et Rashi demande, mais pourquoi ils sont rentrés là-bas? Eh bien, parce que le feu ne descendait pas. Tout était prêt, tout était, le peuple attend. Ça ne marche pas. Il y a un bug. Et Rashi nous dit, d'après le Midrash, que Aaron se tourne vers Moshe et lui dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? C'est à cause de moi que le feu ne descend pas, c'est à cause de ce que j'ai fait dans le veau d'or, que j'ai participé. Mais tu le savais, je le savais, moi j'en étais sûr. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu aurais dû tout faire toi tout seul. Là, j'ai une bouchade terrible. Et donc, ils rentrent ensemble dans le Ohel Moed, ils vont prier, et quand ils vont sortir, le feu va descendre. Seulement, qu'est-ce qui se passe dans l'intervalle? Quand ils rentrent dans le Ohel Moed, eh bien, il se passe autre chose. Il y a deux hommes qui s'appellent Nadav et Avihu. Nadav et Avihu sont les enfants, les aînés de Aaron à Cohen. Ils voient que tout est fini. Ils ont participé également au Corbanot. Ils voient que ça ne marche pas. Et ils décident de faire un acte. On nous dit ici, « Vaikru bene Aaron Nadav et Avihu » Ish martato. Ils ont pris leur pelle qui sert à mettre les charbons ardents. Va y a six mois aller à Esh. Va y nous baïtira Esh. Donc ils ont mis des charbons ardents. Va y a six mois aller à Ketoret. Ils ont mis les encens dessus. Et donc ils voulaient rentrer. Va y a krivu lifne Hashem. Esh zara asher lo tzivaota. Ils ont rentré avec ça. Ils sont pénétrés dans le Kodesh HaKodashim. Là où se trouvaient Moshe et Aaron en fait. Et en faisant ça, ils veulent amener le feu du ciel. Eux, ils amènent le feu d'en bas et ils disent, c'est comme ça qu'on va faire descendre le feu du ciel. Question. Le texte me dit « Asher lo tziva otam » que Dieu ne leur avait pas ordonné. Est-ce que quand tu dis à quelqu'un « Je ne t'ai pas ordonné de faire ça », ça veut dire « Je t'ai ordonné de ne pas faire ça ». Ah non, il y a une différence entre « Ça n'a pas été ordonné » et « Ça a été ordonné de pas ». Nadav et Avihu, à aucun moment, n'ont transgressé quoi que ce soit. Certes, ça ne leur a pas été imposé. Ils ont pris une initiative. L'initiative qu'ils ont prise, et Chazal vont dire qu'il y avait plein de choses qui étaient tout autour. Que par exemple, ils se sont enivrés avant de le faire. Que par exemple, ils ont au roi la khalif Neraba. Enfin, plein de choses qu'ils ont fait. Et Chazal dit, bah, c'est à cause de ça qu'ils sont morts. Seulement, tout ce qu'ils ont fait va être interdit. C'est-à-dire qu'un Kohen qui veut rentrer dans le Kodesh HaKodashim n'a pas le droit de boire. Et puis le Kodesh HaKodashim, tu ne rentres pas quand tu veux, tu rentres qu'une fois par an à Kippour, et ce n'est pas n'importe comment. Mais toutes ces lois-là vont être données quand? Après les événements. D'abord, juste ici, après les événements, Mamash, ils viennent de mourir, Dieu dit à Aaron qu'il ne faut pas faire plein de choses. Et Chazal nous dit, bah, tout ce que Dieu dit à Aaron de ne pas faire, c'est ce qu'eux, ils ont fait. Et ça sera repris dans la paracha de Acharemot, où on nous dit, Acharemot, shene bene Aaron. Alors ça et ça et ça, tu ne fais pas. Donc dans tous les cas, si les interdits ont été donnés, les règles, les cadres, les lois ont été donnés après coup, ça veut dire qu'eux ne sont pas des fauteurs. À aucun moment, Nadav et Avihu ont fauté. Nadav et Avihu sont des tzadikim. Eh oui. D'ailleurs, dans certains marzorim, à Yom Kippour, juste avant la lecture de la paracha du matin, on lit « Vayi acharemot shene ben Aaron », Il y a marqué dans certains marzorim, Kan tsarich lifkot. Quand tu lis la mort d'Ebn dit Kan tsarich lifkot, alma al mitat tzadikim shemechaperet. Car la mort de tzadikim est une expiation pour le peuple. C'est-à-dire qu'on les voit dans la tradition juive comme étant des tzadikim. Mais ils ont fait quelque chose que la halakha dit de ne plus refaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, tout ça. Vous savez quoi ? Je vais vous dire. Nadav et Avihu savaient très bien qu'en faisant ça, ils mourraient.
Ils l'ont fait quand même.
Et ils l'ont fait quand même. Lorsque cela arrive, quelle est la réaction de Aaron ? Le papa, j'ai dit hier dans le cours sur la Shoah, la première chose à avoir comme réaction par rapport à la Shoah, par rapport à un drame en général, mais la Shoah a fortiori, c'est d'abord tais-toi. D'abord on se tait, et peut-être que comme ça on va pouvoir entendre des choses. C'est-à-dire, Vaïdomar, il se tait. Et qu'est-ce qu'il lui dit Moshe ? Moshe lui dit, écoute, je le savais. Je savais que l'inauguration du Mishkan, c'est quelque chose qui était tellement puissant, je savais que quelqu'un allait mourir. Mais je pensais que ça allait être ou moi ou toi. Maintenant que je vois que c'est eux qui sont tombés, je me rends compte qu'ils sont plus grands que toi et moi réunis. Oui ?
C'est écrit.
Là, dans Rashi. Rachid, ici, comme Midrash Tanhuma.
On peut entendre beaucoup, beaucoup de choses.
C'est, ça peut.
On peut entendre énormément de choses sur cette question.
C'est-à-dire
ben, le Midrash est plein de raisons.
De quoi ?
Pourquoi ils sont morts à ce moment-là ?
Évidemment. Mais encore une fois, non, vous n'avez pas compris. Toutes les raisons que tu m'amènes dans le Midrash, parce qu'ils étaient ivres ou parce que.
Ils font beaucoup de choses.
Mais toutes ces raisons-là, encore une fois, elles ne sont pas interdites. Elles ne sont pas encore interdites. Donc, on ne peut pas dire que c'est une conséquence, une punition à un acte X ou Y. C'est un tout, en fait.
On ne dit pas n'importe quoi. Donc, on suppose beaucoup de choses.
Bah, d'abord, le Midrash, il tient une tradition qu'il a reçue de génération en génération. Ce que Moshe dit à Aaron, il dit, voilà, moi je le ressentais comme ça.
Non, on peut aussi dire ça. Bah,
maintenant, mais c'est un tout. C'est-à-dire que tout va ensemble. La grandeur de Nadav et Avihu se traduit dans le fait qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais pourquoi ? En quoi c'est une grandeur ? Nadav et Avihu, j'ai dit, ils savent très bien ce qui va leur arriver. Ils sont tout à fait conscients de l'événement. Est-ce que vous comprenez ce que c'est l'événement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vayera kevod Hashem al kol ha'am. C'est-à-dire que c'est tout simplement faire non seulement descendre Dieu, mais pour eux, rentrer dans le Kodesh HaKodeshim, c'est
se rapprocher.
Plus que se rapprocher.
Rencontrer.
Je me rapproche quand je fais mon alia. C'est vraiment être en contact sans écran avec le divin. Bon, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu, que tu n'as pas vécu. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Après cela, on va dire... La rentrée dans le Kodesh HaKodashim est tellement puissante qu'on va limiter ça à une fois par an. Après énormément de préparation, pendant une semaine, le Kohen Gadol doit se préparer et doit faire exactement ce que Dieu lui a dit de faire et pas autre chose, de peur de mourir. Bon, je vous rassure, personne n'est jamais mort dans le Kodesh HaKodashim. Personne. Aucun Kohen Gadol n'est mort dans le Kodesh HaKodashim malgré la... Comment dire
la...
Non, pas la crainte. Ce que je veux dire, c'est malgré la légende la chaîne et tout ça, machin. Les gens qui disent qu'il y avait une chaîne, alors il n'y a pas de chaîne. On n'a pas rentré du fer dans le Beth Amikdash. Le Tikkun Zohar, il dit qu'il y avait une ficelle, mais c'est une ficelle zoharique. En fait, ça veut dire qu'on veut rattacher le Kohen Gadol. Non, il n'a pas besoin d'être attaché à Dieu. Il a besoin d'être attaché à nous.
Parce qu'on a peur qu'ils ne sortent pas.
Mais évidemment. Et pourquoi on a peur qu'ils ne sortent pas ? Pourquoi ils ne voudraient pas sortir ?
Parce que lui, il est dans le
vide. Parce qu'il est au top. Imaginez-vous 5 secondes.
C'est dur d'y s'imaginer. Oui.
Non, mais viens, on prend des choses qui sont... qui sont accessibles, qui sont à notre portée. Imagine-toi, tu es. Alors chacun, il peut prendre son truc, hein, son plan. Mais imagine-toi, tu es. Voilà, tu as réussi à. Je ne sais pas comment, tu as affrété un avion. On est en plein milieu du séguer, de la folie, machin. Mais toi, tu as réussi à mettre dans un avion privé tous les enfants et les petits-enfants qui ont tous fait un test, qui sont tous négatifs, et étaient à Samoins avec tous les enfants et les petits-enfants pendant tout le corona, et voilà, tout seul, voilà, le chalet, la folie, on est bien, il y a la neige, voilà. T'as envie de revenir ?
Non.
Mais non, t'as pas envie de revenir ! Alors, j'ai dit Samoins pour certaines personnes, j'ai bien compris qu'il fallait que je t'amène dans la suite présidentielle du Burj Khalifa à Dubaï. chacun son kiff. Eh bien, évidemment. Mais si t'es là-bas, t'as envie de revenir ?
Non.
Eh non, t'as pas envie. Tu te la kiffes, t'es dans un monde complètement à part.
Tout à fait.
T'as pas envie de partir ? Eh bien, alors ça c'est en petit, ça. Ça, c'est en petit. Imagine le Kohen Gadol. Il rentre dans le Kodesh à Kodeshim, il rencontre Dieu. C'est évident qu'il ne veut pas repartir. Eh, bravo ! Et donc, on le rattache à nous parce qu'il n'y est rentré que pour nous rendre à nous la force qu'il a été épuisé. Et c'est pour ça qu'il y a une chanson qu'on met dans des mariages, surtout si le Khatan ou la Kala, elle est Kohen. Il y a une chanson qu'on dit, en fait, c'est une partie de la Tfila de Yom Kippour. On dit « Ufren man edar, aya Kohen gadol ».« Ufren man edar, aya Kohen gadol ». Matai ?« Ken, zéon !»« Ufren man edar, matai ?»« Betseto !»« Mi bet koche a kodashim, bli pega ». C'est-à-dire, on est tellement en admiration devant le Kohen Gadol quand il sort du Kodesh HaKodeshim, quand il y rentre, quand il en ressort vivant. Eh oui, parce que lorsque tu rentres dans le Yom HaShemini, et surtout dans le Yom HaShemini plus, c'est le Kodesh HaKodeshim, il pourrait ne pas avoir envie de revenir, comme Nadav et Avihu. Alors Nadav et Avihu, c'est les tzadikim. Dieu, il dit, je ne leur en tiens pas rigueur. Non, regarde qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah. On nous dit que finalement, Asher lo tziva otam, vatetze esh mi lifnei Hashem, vatochal otam vayumutu lifnei Hashem. Lifnei Hashem, c'est pas rien de mourir devant Dieu. Vayomer Moshe el Aaron, hu asher diber Hashem, lemor bikrovay et kadesh. Nadav et Avihu sont appelés les proches de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont appelés comme ça. C'est-à-dire, donc, eux, c'est des gens énormes. On ne peut pas leur en tenir rigueur. Mais Dieu, il dit, je ne veux pas que vous fassiez ça. Eux, c'est eux. Mais je ne veux pas que ça devienne une réalité constante du peuple juif. On ne cherche pas à mourir pour s'approcher de Dieu.
Mais ils l'ont fait consciemment.
Eux, ils l'ont fait sciemment, mais ça n'avait pas encore été interdit. Le chidouche du judaïsme après Nadav et Avihu, c'est de dire, non, on ne veut pas que ça se fasse comme ça.
Et si on compare avec Pinchas,
oui,
qui décide de lui-même de tuer,
oui,
Cosby, Batsou,
etc.
Ils n'ont pas eu le commandement pour faire un truc comme ça. Tuer quelqu'un.
Pourtant,
il
n'y
a pas de mishpat.
Il n'y a pas de mishpat, c'est une chose, mais tu dis qu'il n'y a pas eu de commandement.
Il a pris l'initiative.
Oui, mais rappelle-toi.
Jusqu'à la fin des générations.
Non, mais attention, rappelle-toi comment commence la paracha. On dit vaya, pas la paracha, enfin, cette paracha-là, quoi. Il y a marqué vayar Pinchas. Et le Talmud pose la question, Mara. Alors on te dit, Rama, c'est, il a vu Cosby et Zimri, Veniskar Alacha. Et là, le Talmud nous dit qu'il se rappelle de ce que Moshe a enseigné, la première chose qu'il a enseigné quand il est descendu du Sinaï. Il a dit, Aboel Aramit Kanaim Pogimbo. C'est Alacha. Que celui qui va avec une ennemie d'Israël, eh bien, le vengeur peut le frapper.
Qu'est-ce qui va se passer avec Rame?
Non, mais il y a beaucoup de. C'est, je comprends
pas. Non, c'est-à-dire qu'il y a une halakha dedans.
C'est
pas encore comme Nadav et Avihu.
Où il y a des commandements et qu'on dit non, mais c'est pas comme ça qu'il faut l'imaginer.
Ok, c'est le gamin.
Ça, c'est.
Non, là, tu fais la différence entre Torah chez Béta et Torah chez Béalpé.
Il y a quand même une initiative.
Tu parles de Pinchas.
Oui.
Mais ça va.
Définitive.
Ok. D'ailleurs, le Talmud dit si jamais Zimri il avait réussi à éviter le coup et avait tué lui, Pinchas, il aurait été messager. Parce qu'on vient le tuer, machin. Donc, c'est tout un stratagème. Mais là, C'est complètement différent. Il n'y a pas eu d'ordre. Ils ont fait ça d'eux-mêmes. Après coup, on va dire, non, mais je ne veux pas que tu fasses ça. Mais il faut comprendre d'où vient leur idéologie. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Et ils oublient à un moment donné qu'il faut redescendre. En fait, Nadav et Avihu ont tout simplement inspiré un mythe bien connu de la mythologie grecque. Nadav et Avihu ont inspiré, bien sûr, le mythe d'Icare. Je me fais mes plumes avec ma cire, avec mon papa Dédale, et je m'envole parce que c'est le seul moyen de sortir du labyrinthe que j'ai créé avec le Minotaure au milieu. Il n'y a pas de toit, donc je m'envole, et Dédale dit à son fils, mais ne monte pas trop. Et lui, c'est un jeune fougueux. Et il monte, et il monte. Et à ce moment-là, Hélios, le dieu soleil, n'est pas très content qu'un être humain vogue si près de lui. Et le soleil fait fondre la cire qui tenait les plumes. Et Icare tombe et meurt. Tragédie grecque. Ça, Nadav et Avihu, les Avdil, ben Elef Alfa Avdalot, parce qu'ils ne voulaient pas simplement monter pour la kiffer. Ils montent, 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 ils montent. Pour eux, ils montent. C'est tout. Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne peux pas leur en tenir rigueur à eux, mais je ne veux pas que ce soit ça. Tout le judaïsme, ça va être monter, 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 pour ensuite redescendre et mettre ça en pratique, dans la réalité. Je vais donner un exemple. J'étais un jour avec un groupe, à l'époque où il y avait des groupes Zatzal, un groupe de jeunes, comme ça, et terminal, et une école charédite, comme ça, religieuse, et on a été voir une yeshiva. Et le Rosh Yeshiva, il leur parle et tout, machin. Et à un moment donné, il y a un des élèves qui pose la question, il dit « J'ai entendu dire que vous interdisez aux élèves d'aller jouer au foot ou au truc, c'est vrai ?» Et le Rav, il dit « Oui, tout à fait, nous interdisons complètement ce genre de choses. » L'élève, il ne comprend pas, un petit français, il dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce que tu comprends, quand tu vas au mikvé, il faut être complètement immergé dans le mikvé, sinon ce n'est pas kasher. » Et moi, j'ai répondu, oui, mais si on reste trop dans le mikvé, on se noie. On se noie. Et donc, c'est de cela qu'on parle. Monter, monter, monter. Nachon. Mais le Kohen Gadol, il doit sortir du Kodesh HaKodashim. Et c'est la raison pour laquelle, une fois qu'on est arrivé au top de l'histoire, eh bien, la Torah me dit, je ne voudrais pas que tu comprennes que Nadav et Avihu, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je comprends que Dieu, il a dit, c'est pas ça qu'il faut faire, mais peut-être ça ne suffit pas. Donc maintenant, je vais te donner le contre-pied. Oui, tu vas monter, monter, monter. Pourquoi faire ? Pour que toute cette force, tu la mettes en pratique, peau. Et il n'y a pas de plus grand peau que quand on mange. On n'est jamais autant matériel que quand on est devant un bon barbecue.
Très israélien.
Bah, c'est vrai, bah, mais c'est très vrai en même temps. Ah, si tu ne veux pas un barbecue, mais que tu préfères autre chose... Il n'y a pas de problème, là aussi, hein, ça va pour tous les goûts. Hein. Si tu préfères des sushis, ça peut être des sushis. Si tu préfères de la haute gastronomie, ça peut être de la haute gastronomie, ça n'a pas de problème. Mais quand on mange. Et mal à ça, c'est pas très spirituel de manger.
Et pourtant, quand on prend la table au misère.
Et bidiouk ouais. C'est-à-dire que je fais tout descendre ici. C'est exactement ça. Et donc, eh bien, la suite de la paracha, tu as l'impression d'avoir un fossé qui sépare les deux parties de la paracha. Mais non! T'es monté, 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 et bien là, c'est quoi ? Et là, maintenant, on va mettre ça en pratique. Voilà les lois de quels animaux on a le droit de manger et quels animaux on n'a pas le droit de manger. De la même façon qu'après Yom Kippour, où t'es monté, 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 tu ne peux pas rester en mode Yom Kippour tout le temps. Tu vas mourir si tu ne manges pas et que tu ne bois pas. La première mitzvah après Yom Kippour, c'est la Seouda d'après Kippour. La première mitzvah après Kippour, c'est le repas d'après Kippour. Pour mettre en pratique Baolam Hazeh, que tu t'es élevé pendant Yom Kippour. Et donc, on va te dire, voilà les animaux que tu as le droit de manger et ceux que tu n'as pas le droit de manger à Rabotai. Alors, c'est quoi ? C'est quoi les animaux qu'on a le droit de manger, qu'on n'a pas le droit de manger ? Je ne vous demande pas une liste. Je ne vous demande pas une liste de tous les animaux qu'on a le droit de manger ou manger. Faisons un principe plus général. D'abord, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est très vrai. Pourquoi ? Parce qu'au niveau d'abord biologique, ce que tu manges va influer sur ton identité, au niveau purement corporel. Des fois, tu... Hein ?
En brumine.
Est-ce que nous on rumine ? Nous on rumine pas, j'espère. Enfin, chacun son truc, mais. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on mange fait une influence sur nous. Pas seulement au niveau biologique, peut-être aussi au niveau spirituel. Et donc la Torah, elle dit que, en fait, ce que tu vas manger, c'est. Tu vas intégrer pas seulement les forces de l'énergie du steak, mais tu vas également intégrer des valeurs. Et donc, il y a certaines valeurs que je ne veux pas que tu intègres. Et donc, par exemple, toute violence naturelle, eh bien, on ne veut pas que tu puisses y avoir accès. Donc, tout ce qui sont les animaux qui sont des prédateurs, tu ne manges pas. Qu'ils soient dans les airs ou qu'ils soient sur terre. Tu ne dois pas non plus te voir comme étant un insecte. Tu ne mangeras pas d'insectes. Parce que il va falloir que tu t'élèves un petit peu. Les quels insectes? Tu manges beaucoup d'insectes à Shabbos? Il y a une sorte d'insecte, exactement, qu'on va manger. L'ama, parce que parmi les insectes, c'est celle qui, justement, avec ses ailes, peut s'élever. Aznachon, il faut faire preuve de anava, mais être capable également de s'élever. Donc, justement, on ne mange pas d'insectes, sauf celui qui est capable de s'élever. Ça, oui. D'un autre côté, eh bien, pour les animaux, on va te demander que tu aies besoin de combien de signes de cacheroute ? Deux. Il faut avoir les sabots fendus et ruminés. La mamakara. Alors, que les choses soient bien claires, les signes de cacheroute ne sont pas les signes distinctifs de la cacheroute. Ce sont les raisons de la cacheroute. On ne m'a pas donné les signes distinctifs pour que je sache quel animal est cachère et pas cachère. Mais pour que, enfin, que je sache les reconnaître. Mais parce que c'est pour ça qu'ils sont cachères. C'est-à-dire que l'animal est cachère parce qu'il a des sabots fendus et parce qu'il rumine. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, parmi les animaux qui ne sont pas des prédateurs, on a dit, c'est les prédateurs, on n'en veut pas. Parmi les animaux qui sont domestiqués, voire naturels, enfin, ça a l'air le cas sauvage, mais qui ne sont pas des prédateurs, quelle est la partie de l'animal qui est la partie avec laquelle il fait preuve de la violence animale? Même avant, mais c'est les pattes, effectivement. C'est-à-dire que même le taureau, il ne fait pas de dégâts avec ses cornes. Et on ne parle pas du taureau de la corrida. C'est-à-dire, les taureaux normaux, les chèvres, les cerfs, ce que tu veux, c'est pas avec les bois ou avec les cornes qui font des dégâts. Sauf quand il y a un combat entre eux. Mais les dégâts qu'ils peuvent créer, c'est avec les pattes. Et donc, dans les sabots, on veut que ces sabots, qui sont le symbole de la force animale, ils soient fendus. Qu'on calme, qu'on brise la force animale. Et on veut également qu'ils ruminent. C'est quoi la notion de ruminer ? C'est la notion d'être patient. Léat, léat. On ne mange pas comme un cochon qui ne rumine pas. C'est-à-dire, ruminer, c'est dire, ok, léat, ça va descendre, ça va remonter, ça va redescendre, léat, léat. C'est une qualité fondamentale que la Torah te demande d'avoir. Un, faire preuve de retenue par rapport à la violence naturelle. Et deux, être capable de faire preuve de patience. Mais il y a aussi des animaux sous l'eau. Et là aussi, il y a des signes distinctifs de qu'est-ce qui est cachère et qu'est-ce qui n'est pas cachère. Vous les connaissez évidemment, écailles et nageoires. Sauf que tout de suite, le Talmud va nous dire dans le traité de Houlin, mais nous savons bien, et d'ailleurs, c'est assez incroyable parce que le Talmud, à l'époque du Talmud, combien de sortes de poissons il connaissait ?
C'est ça.
Allez, 100 ?
La carte.
Il n'y avait pas que des. Le Talmud n'était pas que en Pologne. Non, ils connaissaient. Mais bon, combien ils connaissaient ? Les fonds marins, ils n'étaient pas vraiment explorés. Donc, ils devaient en connaître, je ne sais pas, une centaine, peut-être un peu plus. Ils prennent une position de voilà, c'est une constante. Aujourd'hui, on ne connaît peut-être pas encore toutes les espèces marines, mais on en connaît plusieurs milliers. Est-ce que les gens du Talmud, avec une centaine d'espèces connues, disaient, est toujours vrai aujourd'hui ? À savoir que tout poisson qui a des écailles a des nageoires. Ça n'existe pas un poisson qui a des écailles mais pas de nageoires. Ça existe l'inverse, qui a des nageoires mais pas d'écailles. Mais toutes les poissons qui ont des écailles ont des nageoires. Alors je te dis, à l'époque du Talmud, ils balancent ça comme ça. Et je te dis, bon, peut-être qu'ils avaient vu ça sur la centaine de poissons qu'ils connaissaient. Mais ce qui est incroyable,
mais pourquoi on demande alors les deux ?
C'est ce que je suis en train de te dire. Oui. Mais alors, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on doit connaître près de quelques milliers d'espèces maritimes. Et ben, c'est vérifié qu'aujourd'hui, d'après ce qu'on sait, alors on n'a pas encore tout découvert, mais d'après ce qu'on sait, tous les poissons qui ont des écailles ont des nageoires. Et donc, d'où la question, bah alors pourquoi tu me donnes les deux signes ? T'as qu'à me dire simplement celui qui a des écailles. Bah justement, parce que ce n'est pas pour les reconnaître. C'est la raison de leur cache-route. Et donc, c'est quoi le fait d'avoir des écailles ? Eh bien, c'est le fait d'avoir une protection par rapport à ton environnement. Les nageoires, c'est la capacité d'avancer. C'est toutes ces qualités-là qu'on te demande de mettre en pratique dans ce monde avec les forces que tu as prises dans le Vayehi Bayom HaShemini. Être capable d'un côté d'avancer, mais en ayant une protection par rapport à ton environnement, être capable eh bien, de calmer tes ardeurs naturelles en faisant preuve de patience et être capable de t'élever. En fait, toutes les directives de Kashroute qui sont données ici sont mises en place. Pourquoi ? Eh bien, pour que tu saches exactement quoi faire avec les forces que tu as prises au début de la paracha. En fait, la paracha, elle est véritablement une dualité, mais on ne peut pas l'un sans l'autre. Tu ne peux pas uniquement t'élever dans le spirituel et tu ne peux pas être uniquement dans le matériel. La Torah vient dans la paracha de Shemini nous dire « Tu te dois de faire la synthèse entre les deux. » Si tu prônes un mode de vie qui est que dans les cieux, c'est l'otov. Tu prônes un mode de vie qui est que ba'aretz, c'est l'otov. Il faut faire la transition entre shamaim va'aretz. Cette transition de shamaim va'aretz, c'est le boulot du Shabbos Goy qu'on a dit au début de notre étude. De faire la transition, c'est-à-dire de parfaire le septième jour avec les ustensiles de ce monde. Dieu, quand il est obligé de lui faire le boulot, comment ça s'appelle ? Quand Dieu fait le boulot et intervient dans ce monde, ça s'appelle un miracle. Un miracle, ça s'appelle Chilul Shabbat. Chilul Shabbat de lui. C'est la transgression de son Shabbat, un miracle. Puisqu'il a dit, j'arrête. Et s'il fait quand même, bah, c'est pas Shabbat. Sauf que des fois, piquar nefesh, doré Shabbat. Et donc des fois, quand Dieu il pense que eh ben, le monde est en danger de mort du monde, eh ben, il fait un miracle. L'ouverture de la mer Rouge. Bon, d'accord. Mais c'est mieux de ne pas être en situation de piquar nefesh, non ? C'est quand même mieux d'être pas obligé de passer par là. Donc, ça veut dire qu'il faut atteindre une dimension où tu fais le boulot sans être obligé de passer par Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous. Shabbat, je fais rien. Là, Shabbat. Le Shabbat, je fais aucun travail. Pourquoi ? Parce que Shabbat, comme vous le savez, c'est en relation avec la création du monde. Or, la création du monde, j'étais pas là, c'est pas moi qui ai bossé, c'est Dieu qui a tout fait. Donc, si je veux pouvoir participer à la Kedusha, je dois quelque part cesser d'être pour me rattacher au moment où j'étais pas. Donc, je cesse complètement ce qui fait de moi un homme, mes melachot. J'arrête tout. Et c'est comme ça que j'acquiers un petit peu de la Kedusha du Shabbat. C'est bien, mais j'ai complètement annulé mon identité. Et bien après arrive Yom Tov. Yom Tov, qui sont toutes des dérivés de la sortie d'Égypte, je dois aussi arrêter de faire des travaux, sauf Melachet Ochel Nefesh. C'est-à-dire, j'ai le droit de cuisiner, j'ai le droit de faire les bases pour mon existence. Pourquoi ? Eh bien parce que la sortie d'Égypte, bien que 90% ait été fait par Dieu, il y a quand même 10% qui ont été faits par moi cette fois. Je suis sorti d'Égypte, j'ai pris mes pieds, je suis sorti. Donc je participe un peu. Donc j'ai le droit de ne pas complètement être annulé. Plus tard, il y aura Pourim. Pourim, c'est bien. C'est Mordechai et Esther qui ont agi. Dieu, il était en cachette. Donc, on a le droit de travailler à Pourim. Mais on a quand même des règles particulières à Pourim. On n'a pas le droit, sachez-le, de planter un arbre et de construire une maison à Pourim. Pourquoi ? Parce que c'est une fête de Galout et de Chutz La'aretz. Donc, tu ne vas pas faire une construction permanente, définitive, à Pourim. Et puis après, tu arrives à Hanouka. Ah, Hanouka, c'est super. C'est 90% de nous qui avons bossé. On a battu les Grecs et tout ça. Bon, Dieu, il s'est gardé un petit 10%, le coup de la petite fiole d'huile. Donc, eh ben, à Hanouka, on aura de faire toutes les melachot. Mais il y a le minag que pendant l'allumage des bougies, on ne fait pas de melachot. OK. Et puis enfin, au bout de 5708 ans, eh ben, il se passe un truc absolument incroyable. Puisque la Géoula arrive et c'est 100% Dieu qui fait et 100% nous aussi. L'État d'Israël a été créé à 100% par Dieu et à 100% par le Palmar. Et la Hagana, et le Hetzel, et le Lehi. Et donc, puisque 100% de nous, on a bossé, et 100% lui, eh bien, on n'a pas besoin de s'arrêter, de faire quelques melacha que ce soit à Yom HaAtzmaout. En d'autres termes, Yom HaAtzmaout, c'est le moment où on a mis en pratique la paracha de Shemini. On est monté pour tout remettre en pratique, Ba'olam HaZeh. En d'autres termes, Yom HaAtzmaout, c'est le moment où la Kedusha a atteint sa Atzmaout. Et donc, eh bien, c'est le moment, l'indépendance. Et donc, c'est le moment où on a commencé enfin notre histoire. Eh oui, jusqu'au 5 Iyar 5708, c'était la préhistoire du peuple juif, puisque nous étions soumis au bon vouloir des autres. Enfin, nous pouvons maintenant commencer, depuis quelques années déjà, à écrire la page de l'histoire de la Géoula et qui doit amener à la conclusion du septième jour pour qu'on puisse atteindre Vayehi Bayom HaShemini pour de vrai et que ça ne soit plus en contradiction avec notre réalité. Et à ce moment-là, ben, Yé Tov Meod. Et donc, on pourra marquer dans la Torah Vayar Elohim Kitov Vayerev Vayvoker Yom HaShemini et on rentrera Mamash dans le huitième jour. Mais ça, c'est une autre histoire. On verra quand on y sera. Zagobo. Hop là. Alors la semaine